Merci, merci France, merci pour ta patience, merci pour tout ce que tu fais, merci à tes co-hosts aussi, puis merci à tout le monde d'être là. Moi, comme je le dis souvent, j'ai besoin de vous autres. J'ai été 30 ans sans vous autres, puis rien qui a marché, puis depuis les derniers 30 ans, je suis avec vous autres, puis ça marche. Fait que, je vous remercie d'être là. Si vous voulez bien, on va commencer le meeting avec un moment de silence. Puis durant ce moment de silence-là, peut-être qu'on va avoir une bonne pensée pour les gens qui voudraient être ici, puis qui ne peuvent pas, puis aussi pour les gens qui devraient être ici, puis qui ne le veulent pas. Juste un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. On va faire une petite revision là, de ce qu'on a fait jusqu'à date. Au début, on a parlé de avant, comment est-ce que la ligne est venue de l'Autriche avec le docteur Carl Jung, puis elle est venue de New York avec le docteur Silkworth, ils ont ramené Abby. Ça se fait rencontre d'Abby dans le fond des deux colonnes. Puis Abby a transmis ça à Bill, que Bill est allé voir le docteur Bob. C'est là que tout a commencé. Après ça, on a parlé un peu de l'histoire du gros livre. Le gros livre, il a été écrit commencé en 1938 et paru en 1939. Après 3 ans de AA, les gens qui ont commencé ça, les fondateurs se sont aperçus que peut-être le message se transmettait pas correct de bouche à bouche. Et puis, ils ont décidé de bouche à oreille, c'est-à-dire, et puis, ils ont décidé d'écrire un livre pour que la méthode ne se perde pas, pour perpétuer cette méthode-là. Puis, je remercie Dieu qu'il ait là, parce que ça a sauvé ma vie, puis ça sauve la vie de beaucoup de gens. J'espère que ça va sauver la vie aux petits-enfants de mes petits-enfants, si jamais ils ont besoin de. Ils ont écrit ce gros livre-là qui a paru en 1939. Mercredi passé, c'était le 85e anniversaire de AA. Ils font une grosse célébration à Akron en fin de semaine. J'ai écouté des partages là, qui étaient très, très, très bons. C'est des gens qui ont le gros livre à cœur, qui sont là-dedans tous les jours, qui ont dû donner le message là. C'est en anglais, c'est sûr, mais c'était excellent. Et puis après ça, on vous a parlé un peu comment l'étude de Grolier va commencer. C'est en 73, Joe et Charlie se sont rencontrés. Et puis, ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin du Grolier, toutes les deux. Ils ont commencé à se parler, puis ils ont commencé à parler dans des groupes du Grolier. Et puis finalement, en 1977, ils ont commencé à faire des études de Grolier, puis en ont fait un peu partout dans le monde, du côté anglais. Et puis, moi, je l'ai pris de Cowboy à Calgary. Lui, il avait suivi des cours, il avait suivi les études de Grolier de Joe et Charlie. Puis lui, il nous l'a transmis, puis moi, c'est de là que ça a parti. Quand j'étais à Calgary, quand j'arrivais au Québec en 2002, personne n'avait l'air à connaître ça, c'était quoi les études de Grolier. Finalement, il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'en commences pas un pour voir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est ça qu'on a fait en 2005, moi puis Joanne, ma compagne d'alors, on a commencé des études de gros livres. Et puis aujourd'hui, ça se propage un peu partout au Québec. Du côté d'anglais, c'est connu. Du côté québécois, c'est moins connu. Puis là, on espère que tout le monde va pouvoir en profiter. Tout le monde va comprendre le pourquoi de ça. Puis après ça, on est allé voir l'opinion du médecin, qui est le premier chapitre en chiffres romains, dans page 26 à 34. Le médecin, le médecin qui est écrit là, c'est le docteur Silkworth. Que lui a expliqué la maladie à Bill. Il a dit à Bill qu'il y avait une maladie physique, il avait une allergie à l'alcool. Aussitôt qu'il prenait une goutte de boisson, ça développait un goût immodéré de boire. Puis il a dit qu'il y a seule une solution à ça. La seule solution, c'est de jamais consommer de boisson d'aucune sorte que ce soit. Après ça, il a décrit l'obsession. L'obsession, c'est ce que ta tête a dit qu'à soir, ça ne fera pas ce que ça a fait les autres fois. Dans notre gros livre, ils nous disent que si des centaines d'expériences ont prouvé que ça ne marchait pas, pourquoi qu'on retourne voir? La page 26 nous dit ça, puis la page 27, ils nous donnent la réponse. Ils nous disent c'est parce que notre tête ne peut pas se rappeler des souffrances, des humiliations qu'on a subies auparavant. Notre tête, elle nous dit, à soir, ça ne fera pas ce que ça a fait hier ou ça a fait la semaine passée. Et puis la solution de ça, bien, c'est d'en venir à croire à quelque chose de différent qu'on a toujours cru pour pouvoir s'en sortir. Après ça, on a lu l'histoire de Bill. L'histoire de Bill, le but de tout ça, c'est de voir les ressemblances et non les différences. Bill, c'est un ivrogne probablement pire que moi, mais j'ai pu m'associer à lui à beaucoup de place dans son partage. Puis après ça, Bill nous a parlé de son rétablissement à travers de son chum Abby qui est allé le voir. Son chum Abby, il a dit à Bill, il a dit, pourquoi tu ne changes pas ta conception de Dieu? C'est ça qui est ton trouble. Puis Bill est allé à l'hôpital 2 semaines après ça. Puis dans sa chambre d'hôpital, il a dit, il y a un Dieu qui se manifeste parce que j'en peux plus. Puis il a eu son gros éclair là, qu'il a eu un réveil spirituel à 100%. Ce réveil spirituel-là, ben, il nous en parle à page 31 du gros livre, il nous en parle à page 133 du gros livre. C'est quoi un réveil spirituel? Ben, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête qui change drastiquement notre façon de penser. Aussitôt que notre façon de penser est modifiée, changée, aussitôt la façon d'agir va changer, puis la façon de réagir va changer. Ça, c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre, s'il y a une solution, on va sauter ce chapitre-là, puis on va aller à autre donnée sur l'alcoolisme pour commencer. Avant de trouver la solution, on va aller parler de l'obsession qu'on a. La deuxième partie de la première étape, c'est l'obsession. Si vous voulez bien, on va aller à page 34 de notre gros livre. Et puis, on va lire ça jusqu'à la fin du chapitre. Encore une fois, je m'appelle Hubal, je suis un alcoolique, puis je suis content de le savoir parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Et encore une fois, j'ai besoin de vous autres. Fait qu'abandonnez-moi pas, j'ai besoin de vous autres. Sans vous autres, je peux pas rien faire. Je peux lire le gros livre tant que je veux, mais ça marche pas, ça a pas marché pour moi. Puis quand j'ai commencé l'étude du gros livre, mais tout a fonctionné. Et puis comme Bill nous dit, dans son. Il a dit que Abby avait fait promettre d'aller faire pour les autres ce que lui, Abby, a fait pour Bill. Puis c'est ça que nous autres, on doit faire. Aussitôt qu'on a compris le programme, qu'on peut l'assimiler, on va aller le dire à d'autres. Moi, je dis toujours à tout le monde, essayez pas d'expliquer de quoi que vous ne comprenez pas. Si vous ne comprenez pas, bien, parlez à votre parrain, votre marraine, votre guide spirituel. Puis moi, mon numéro de téléphone il est disponible à tout le monde. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr. Bien, c'est certain que je vais vous aider ou je vais essayer de vous aider, c'est sûr. Fait qu'on va aller à page 34, autres données sur l'alcoolisme. La plupart d'entre nous avons été réticents à admettre que nous étions des véritables alcooliques. C'est certain, personne. C'était pas le but dans ma vie, moi, de dire, moi, à 44 ans, je vais devenir un alcoolique chronique, puis ouais, ben, moi, de me ramasser à l'hôpital. C'était pas un de mes buts de la vie du tout. Puis je pense qu'à peu près tout le monde qui sont rentrés dans l'alcoolique anonyme, c'était pas un de leurs buts. Ils voulaient faire mieux, puis ils ne savaient pas faire comment faire mieux. Puis avec ce gros livre-là, ben, on a appris à mieux faire. Personne ne trouve agréable de penser que mentalement et physiquement, on est différent des autres. C'est sûr qu'on veut tous paraître bien, puis être bien. Fait que ça, on veut pas se faire dire qu'on est physiquement et mentalement attaqué. Il est donc pas étonnant que nos vies de buveurs aient été marquées par d'innombrables et inutiles tentatives pour prouver que nous pouvions boire comme tout le monde. On a-tu essayé de prouver ça? Prouver ça à nous autres. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'une personne qui n'est pas alcoolique n'essaye jamais de se prouver qu'il faut qu'elle arrête de boire. Elle n'essaye pas de trouver une façon d'arrêter de boire. Il y a juste les alcooliques qui essayent de trouver une façon d'arrêter de boire. Personne normale, même les gros buveurs, ils n'essayent pas d'arrêter de boire. Ils sont contents. Ça fait l'effet que c'est supposé de faire. La grande obsession de tout buveur anormal, on parle d'alcoolique ici, c'est qu'un jour, je ne sais pas trop comment, mais il va parvenir à contrôler puis à prendre plaisir à boire. C'est ça que j'ai essayé toute ma vie. Moi, j'ai tout parti pour avoir du fun. Je me suis ramassé sous, mais ce n'était pas dans mes intentions pantoute. Je voulais juste avoir du fun, moi. Nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape vers le rétablissement. Si je ne suis pas capable d'accepter la maladie, bien, il faut que je la comprenne. Puis pour la comprendre, bien, on a l'opinion du médecin, l'histoire de Bill, plus autres données sur l'alcoolisme qui vont nous aider à comprendre cette maladie-là pour qu'on puisse accepter jusqu'au fond de notre être que oui, on est un alcoolique. C'est pas de notre faute. C'est comme avoir le cancer. J'ai pas honte d'avoir le cancer. C'est pas de ma faute. Mais la même chose alcoolique. J'ai pas honte d'être un alcoolique parce qu'on a une solution à cette maladie-là aujourd'hui. Il faut accepter ça au plus profond de notre être. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres, qu'un jour nous deviendrons, doit être dissipée. Hein? Je ne peux pas penser que même je me retraite, je vais être capable de prendre un verre, ou avant de mourir, je vais être capable de prendre un verre, ou si je change de blonde, je vais être capable de prendre un verre. Non, il faut que j'accepte au plus profond de moi-même que je n'ai aucune chance. La seule chance que j'ai, c'est de suivre ce qui est écrit dans ce gros livre-là avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Nous, les alcooliques, sommes des hommes et des femmes qui avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation d'alcool. C'est ça qu'on est devenu, on ne le savait pas. Nous savons que jamais, Un alcoolique véritable ne retrouve cette maîtrise. Nous avons tous eu à un moment donné l'impression de nous ressaisir, mais ce sursis généralement court était suivi d'un manque de contrôle encore plus grand qui menait éventuellement à un découragement pitoyable et incompréhensible. On a-tu fait des pirouettes pour essayer de. Puis penser qu'on l'avait parce que moi-même, j'étais des périodes de temps que je ne buvais pas, je pensais que je l'avais, puis surtout que je goûtais à ça, je me saoulais encore. Nous sommes tous convaincus que les alcooliques de notre catégorie sont aux prises avec une maladie progressive. À la longue, notre condition va sans cesse en s'aggravant, elle ne s'améliore jamais. Souvent, on rencontre du monde, on dit « Ah, oh, moi, je peux arrêter quand je veux. » J'ai pensé ça longtemps, moi et tout, puis quand j'ai réellement voulu arrêter, je n'étais pas capable. Il a fallu que je rentre des alcooliques anonymes, puis avoir un parrain qui me fait passer à travers des étapes, puis qu'on lise le gros livre ensemble pour comprendre puis accepter la maladie. Nous ressemblons à des personnes qui n'ont plus de jambes. Elles ne repoussent jamais. Il ne semble exister aucun traitement qui permette à des alcooliques comme nous de ressembler aux autres. Nous avons essayé de tous les remèdes possibles. Parfois, certains nous ont apporté un bref moment de répit qui était toujours suivi d'une récidive encore plus grave. Parce qu'on essayait toutes sortes d'affaires, puis on pensait que ça va réussir, mais ça ne réussissait pas, ça rempirait au lieu. On ne le savait pas. Mais on essayait des choses. En tout cas, moi, j'ai essayé. Puis plusieurs des personnes à qui je parle, ils ont essayé toutes sortes d'affaires pour se débarrasser de ça, puis ça n'a jamais marché. Les médecins qui connaissent l'alcoolisme s'accordent à dire qu'il est impossible, impossible pour un alcoolique de revenir un buveur normal. Si j'ai dépassé le point tournant, il est impossible que je revienne là-dessus. Peut-être qu'un jour la science apportera-t-il la solution, mais ce n'est pas encore fait. Ça a été écrit en 1939, il n'y avait rien, puis en 2020, il n'y a encore rien qui peut aider l'alcoolique à s'en sortir. Il n'y a aucun remède. C'est pour ça qu'ils appellent ça une maladie chronique. Chronique, ça veut dire que la science ne peut pas guérir ça. Malgré ce que nous pouvons dire, nombreux sont les vrais alcooliques qui ne croient pas appartenir à cette catégorie. J'en étais un moi-même quand j'arrivais là, après 8 ans, 30 ans, je n'étais pas sûr que j'étais un alcoolique ou pas. En se leurrant eux-mêmes, par toutes sortes de moyens, ils tenteront de se prouver qu'ils sont des exceptions à la règle et par conséquent que ce n'est pas des alcooliques. Puis encore une fois, les seules personnes qui essayent de prouver qu'ils ne sont pas des alcooliques, c'est les alcooliques. Personne normale n'essaiera jamais d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas alcooliques. Ils savent, il n'y a aucun doute. Nous sommes prêts à lever notre chapeau à la personne qui s'est en relevée un jour incapable de se maîtriser devant l'alcool, réussissant ensuite à consommer normalement. Dieu sait les nombreux et pénibles efforts que nous avons faits pour tenter de boire comme tout le monde. Voici quelques-unes des méthodes que nous avons essayées. Boire seulement de la bière, limiter le nombre de consommations, jamais boire seul, jamais boire le matin, boire seulement à la maison, pas garder d'alcool chez soi, pas boire durant les heures de travail, boire seulement en société, laisser le scotch pour le cognac, ne boire que du vin, accepter de donner notre démission s'il nous arrivait de nous enivrer au travail, partir en voyage, pas partir en voyage, jurer ou simplement promettre de ne plus jamais boire, faire plus d'exercices physiques, lire des ouvrages pour se motiver, séjourner quelque temps dans une maison de repos à la campagne ou dans une clinique, accepter de recevoir des soins psychiatriques. La liste pourrait s'allonger à l'infini. Moi, je le sais, il y a une maison qui buvait du scotch. On allait là, il nous vidait un petit verre de scotch, puis c'était méchant, cette affaire-là, c'était pas buvable. Puis moi, dans mon alcoolisme, à un moment donné, je trouvais que je bois un peu fort, fait, j'ai dit, je vais boire du scotch. C'est assez méchant, j'en boirais pas gros. Bien, j'ai commencé à boire du scotch, puis pas longtemps après, j'ai acheté ça, pas à bouteille à la fois, j'ai acheté ça à caisse. Fait que ça n'a pas marché. Il est toujours délicat d'affirmer de quelqu'un qui est un alcoolique, mais chacun peut facilement établir son propre diagnostic. Rendez-vous au bar le plus près et voyez si vous pouvez boire raisonnablement. Essayez de boire, puis vous arrêtez tout d'un coup. Répétez l'expérience plusieurs fois. Vous saurez vite à quoi vous en tenez si vous êtes honnête avec vous-même. Ça vaut peut-être la peine de risquer une bonne crise de tremblement pour être tout à fait fixé sur sa condition. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça, puis je conseille pas au monde de faire ça, même si c'est écrit en anglais. Dans ce temps-là, peut-être que le mouvement n'était pas connu, puis il donnait ça comme alternative. Mais moi, quand j'ai lu l'opinion du médecin avec mon parrain, j'ai découvert que j'étais un alcoolique chronique, il n'y avait rien à faire, j'ai pas eu besoin de retourner voir pour vérifier. J'étais sûr, j'étais convaincu que c'est ça que j'étais, comme on a parlé tout à l'heure. Au plus profond de moi-même, j'ai su que j'étais un alcoolique. Bien que nous ne soyons pas en mesure de le prouver, nous croyons que la plupart d'entre nous aurions pu mettre un terme à notre mauvaise habitude dès le début. Mais peu d'alcooliques désirent vraiment arrêter de boire tant qu'il n'est pas encore temps. C'est certain, moi, quand dans la croissance de ma maladie, je commençais un adolescent à boire, puis même si quelqu'un m'a dit que j'étais un alcoolique, je les ai renvoyés promener parce que ça faisait pas de sens dans ma tête. Tu sais, je pensais que je contrôlais ça, puis je pensais que c'était une mauvaise période, puis c'était pour être correct. Mais quand, si on essaye de convaincre les jeunes qu'on voit, moi, je sais, quand je vais dans des réunions, des fois familiales ou des réunions d'affaires, il y a peut-être 50 personnes là. Je peux en pointer du doigt 4-5, que je sais que c'est des alcooliques. Ça se voit. C'est pour nous autres qui sommes habitués avec les alcooliques anonymes, on peut les pinpointer, mais même si on lui dirait qu'ils vont développer l'alcoolisme ou qu'ils devraient arrêter, c'est certain qu'ils ne nous écouteront pas parce qu'ils ne sont pas encore rendus au point tournant. On a relevé quelques cas d'individus qui, malgré les manifestations certaines de tous les signes de l'alcoolisme, ont réussi pendant longtemps à ne pas boire grâce à un puissant désir de s'en sortir. Un prochain exemple. Excusez. Un homme de 30 ans faisait souvent la fête. Très nerveux le lendemain de ses buveries, il se calmait avec encore un peu plus d'alcool. Il désirait ardemment réussir en affaires, mais se rendait compte qu'il n'accomplirait rien de bon tant qu'il toucherait à l'alcool. Une fois qu'il avait commencé à boire, il ne pourrait plus s'arrêter. Il a donc pris la décision de ne plus avaler une seule goutte d'alcool tant qu'il n'aura pas réussi dans la vie, qu'il ne sera pas à la retraite. Encore là, il a gardé l'idée dans sa tête. C'est mon parrain me disait tout le temps, Hubert, il ne joue pas avec cette idée-là. Joue pas avec l'idée qu'un jour, ça va être correct. Ça ne sera pas correct. Puis, si tu joues avec cette idée-là, ben, un jour, tu vas te l'essayer. Fait que, là, il nous dit, un homme exceptionnel. Il est demeuré totalement abstinent pendant 25 ans, puis a pris sa retraite à 55 ans, après une carrière fructueuse et heureuse dans le monde des affaires. Il a alors commis l'erreur de croire, comme presque tous les alcooliques, qu'en raison de sa longue abstinence et compte tenu de sa discipline personnelle, il pourrait voir comme les autres. Il a réussi en affaires, il s'est retraité à 55 ans, il a tout pour lui. Puis il a dit, bien, je suis capable de te faire ça, je vais être capable d'arrêter de boire, je vais être capable de boire normalement. C'est ça qu'il a cru, puis on va voir ce qui est arrivé. Il a donc mis ses pantoufles et ouvert une bouteille. 2 mois plus tard, il se présenta à l'hôpital, confus et humilié. Pendant quelques temps, il a fait des efforts pour contrôler sa consommation au cours de cette période. Il est retourné plusieurs fois à l'hôpital. Puis, prenant son courage à deux mains, il a tenté de cesser de boire complètement pour découvrir qu'il en était incapable. Ne regardant pas la dépense, il a pris tous les moyens possibles pour aider son problème. Des méthodes plus douces, plus faciles. On va voir ce que ça a donné. Mais ses tentatives ont échoué. Bien que robuste au moment de sa retraite, notre homme a dépéri si rapidement qu'il est mort 4 ans plus tard. Même s'il voulait arrêter de boire, il ne pouvait plus. Puis, c'est sûr qu'il a rencontré des alcooliques anonymes parce que son histoire est là. Mais il a pensé que ce n'était pas pour lui, que lui, il avait vécu tout dans sa vie, il a tout réussi, qu'il réussirait là-dedans aussi. Mais il a réussi, tout ce qu'il a réussi, c'est la mort. Ils nous disent en haut, « Joyeux heureux l'île de la prison, la folie ou la mort, quel serait votre choix? » Puis le monde dit, « Bien, je vais y penser. Hein? Je vais y penser. » Il y a dans ce récit une importante leçon. La plupart d'entre nous ont cru qu'en ne buvant pas pendant une bonne période, nous pourrions ensuite boire normalement. Pourtant, cet homme a 55 ans, a découvert qu'il était exactement au même point qu'à 30 ans. Ça ne se guérit pas, ça nous attend. Ils nous disent que c'est déroutant, mais c'est patient. L'alcool est patient, il va t'attendre 30 ans. J'ai connu une fille qui avait, je pense, 37 ans qu'elle me dit qu'elle avait dans haut. Elle retournait voir. Pourquoi? Parce qu'elle arrêtait de faire ce qu'elle était supposée, puis sa tête, elle lui a dit que c'était correct. Mais elle était aussi alcoolique qu'elle était avant. Elle était 10 ans en boisson, puis elle est revenue pour nous dire qu'est-ce qu'elle avait fait. Ainsi dans l'énoncé, alcoolique un jour, alcoolique toujours, se vérifie constamment. Lorsqu'après une période d'abstinence, nous retouchons à l'alcool, nous retombons un peu de temps aussi bas qu'avant. Si nous voulons renoncer à boire, nous devons le faire sans aucune réserve. J'aime ça, cette expression-là. Sans caresser l'espoir. Sans caresser l'espoir subtil qu'un jour, ça va être correct. Qu'un jour, je vais être capable de maîtriser l'alcool, je vais aller à la messe, ou je vais aller faire des réunions, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Tout essayé, puis ma tête, elle me dit que ça va être correct, puis ça ne l'est pas correct. Il n'y a pas de méthode plus douce, plus facile. Ils nous disent, en gros, on n'a pas le contrôle de tout ça, mais ceux qui n'ont pas trouvé de méthode, venez nous voir la nôtre à marche. À marche, si on fait ce qui est exposé dans le gros livre. On est dans la page 38. Les jeunes peuvent trouver un encouragement dans l'expérience vécue par cet homme en pensant que, comme lui, ils peuvent cesser de boire par la force de leur volonté. C'est certain, une personne plus jeune qui va lire ça, puis moi-même, si je me répète lire ça à 25 ans, je vais dire, voyons donc, si lui, il l'a fait, je suis capable de le faire. Parce que moi, j'étais en affaires, j'ai réussi en affaires, mais avec la boisson, je n'ai jamais réussi. Mais ma tête, elle me disait que ça pourrait être correct. Nous croyons que peu d'entre eux pourraient réussir car ils ne le désirent pas assez ardemment. Il est peu probable que l'un d'entre eux puisse s'en sortir à cause de la déformation d'esprit particulièrement déjà acquise. J'adore cette phrase-là. Une déformation d'esprit particulière qui est déjà acquise. Ça veut dire que j'ai plus le choix. Si je suis devenu un alcoolique, il y a quelque chose qui s'est passé en arrière de mon cerveau qui ne se guérit pas, qui ne se détruit pas. J'ai une déformation d'esprit particulière. Un alcoolique, c'est particulier. Une déformation d'esprit qui ne peut pas. Puis moi, je compare ça à un élastique. Hein? Une bande élastique que vous mettez en dessous de votre gros livre. Vous ne lisez pas votre gros livre. Laissez-le là 10 ans. Enlevez votre gros livre de sa bande élastique et essayez de la redresser. Ça ne redresse pas. Elle ne reviendra jamais comme elle était. C'est la même chose avec notre cerveau. On a une déformation d'esprit particulière pour les alcooliques. Plusieurs de nos membres âgés de 30 ans ou moins ne buvaient que depuis quelques années, mais sont trouvés aussi dépourvus que ceux qui buvaient depuis 20 ans. Aussitôt que cette déformation-là est faite, il n'y a plus rien à faire. On ne pourra pas mettre si on veut. Il n'est pas nécessaire d'avoir bu longtemps, ni d'avoir absorbé même quantité d'alcool que nous pour être gravement affecté. Ce n'est pas la quantité d'alcool qu'on prend, c'est ce que l'alcool nous fait. Il y en a qui peuvent boire 2,41 par jour, puis d'autres boire la moitié d'un 10-11. Ils sont aussi alcooliques un que l'autre. C'est juste l'un qui a plus de résistance. Et ça ne change rien dans l'alcoolisme. C'est la même maladie, c'est la même chose. Ils sont gravement affectés à cause d'une déformation d'esprit particulière que celui qui boit la moitié d'un 10-11, puis l'autre qui boit 2,41. Ils ont la même déformation d'esprit particulière. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Les femmes de type alcoolique sont souvent subitement assaillis par la maladie et atteints du point de non-retour en quelques années seulement. Certains buveurs, qui seraient très vexés d'être considérés comme des alcooliques, sont étonnés de leurs incapacités de cesser de boire. Nous qui sommes familiers avec le symptôme de cette maladie, voyons un grand nombre d'alcooliques éventuels chez les jeunes. Allons donc essayer de leur ouvrir les yeux. Comme dit, on voit dans des assemblées mondaines, on voit du monde qui boit, puis on peut les pointer du doigt. Lui, c'est un alcoolique, l'autre, ils ont toutes des tendances à ça, on le voit. Il y a toujours quelques-uns. Quand on est là-dedans, on le voit, mais on donnerait d'essayer d'aller lui dire, parce que pour eux autres, ça ne fait pas de sens. En jetant un regard sur le passé, il nous semble que nous avons continué à boire bien longtemps après avoir dépassé ce stade où, avec de la volonté, nous aurons pu encore nous en sortir. Si je regarde en arrière, puis c'est ça que j'ai fait avec mon parrain, c'est avec la première étape dans l'opinion du médecin, j'ai regardé en arrière, puis je me suis aperçu que même là, à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé à boire, j'avais toujours hâte de reboire. Déjà là, j'avais une déformation d'esprit. À 17 ans, je manquais d'aller à l'école, tout s'est passé dans ma vie. Puis je voyais la déformation d'esprit graduelle dans ma vie, à travers cette opinion du médecin-là. C'est certain que quelqu'un m'aurait dit à 25 ans, même à 30 ans, il n'était pas question, moi je pensais que j'étais correct. À celui qui se demande s'il a franchi ce seuil, nous suggérons d'essayer de s'abstenir d'alcool pendant un an. S'il est un véritable alcoolique, si son alcoolisme est très avancé, il y a peu de chances de réussir. Moi, je l'ai fait, c'est une gageure, j'avais 20 années, j'ai pris une gageure pour un an pour prouver que je n'étais pas un alcoolique. Au bout d'un an, j'ai gagné la gageure 100$, puis je suis allé me saouler ce soir-là avec une brosse monumentale. Ça fait que ça n'a rien prouvé à personne. C'est juste que j'ai souffert pendant un an en temps pour ne pas boire, puis j'ai bu 100$ ce soir-là. Ça fait que ça n'a rien prouvé. Au début, il nous est arrivé de ne pas boire pendant une année ou plus pour devenir plus tard de solide buveur. Il parle de moi, dans ce gros livre, il parle de moi partout. Même si vous êtes capable de ne plus boire pendant une longue période, vous pouvez être un alcoolique en puissance. Tu sais, moi, quand j'arrêtais de boire, les périodes où j'arrêtais de boire, je me tenais dans un bar, mais je ne buvais pas. J'étais au comptoir, pendant un 7-up ou quelque chose comme ça. À un moment donné, il arrivait un smart qui me payait un verre, ben, je n'étais pas laissé gaspiller ça. Ben, je ne le savais pas, moi, que c'était le premier verre. Ben, je le prenais puis je me saoulais. Devenir un alcoolique en puissance. Parmi ceux que ce livre intéresse, nous sommes persuadés, tout le monde devrait être intéressé à ce livre, même si vous n'êtes pas un alcoolique, pour aller comprendre l'alcoolique, parce qu'on a, tout le monde a des alcooliques dans leur famille ou dans leurs amis. Puis, ce livre-là va nous aider à les comprendre, puis peut-être, dans nos communs, nous dire, mais pourquoi tu ne vas pas alcoolique anonyme ou pourquoi tu ne vas pas lire ce livre-là, peut-être ça va t'aider. Parmi ceux qui lisent ce livre, nous sommes persuadés qu'il y a peu qui réussiront à ne pas toucher l'alcool pendant un an. Certains s'en ont déjà ivres le lendemain du jour où il y aura pris la résolution. La plupart s'enivreront après quelques semaines. Même après, j'ai fait cette année-là. De moi-même, j'essayais de temps en temps. Je disais, je ne boirais pas pour un mois, deux mois, puis deux, trois jours après, je t'assois encore. Ceux qui sont incapables de boire avec modération se demandent bien comment ils pourraient cesser complètement. Nous tenons pour acquis, bien sûr, que le lecteur souhaite renoncer à boire. Si la personne ne veut pas arrêter de boire, elle peut lire le livre que ça voudra, elle n'arrêtera pas. Et si réellement je vais arrêter de boire, je vais suivre les consignes qu'il y a là-dedans avec quelqu'un qui les a déjà suivis. C'est garanti que je vais arrêter de boire. Pour savoir si quelqu'un veut en sortir sans une aide spirituelle, il faut aussi savoir jusqu'à quel point il a perdu la capacité de choisir s'il va continuer ou non à boire. Ça veut dire que si c'est pas c'est un gros buveur, peut-être c'est pas un alcoolique, c'est un gros buveur, il a encore le choix. Mais si c'est un alcoolique, il n'a plus de choix. Nous étions nombreux à croire que nous avions une grande force de caractère. Nous sentions la nécessité absolue de renoncer à l'alcool pour toujours. Et pourtant, ça nous a été impossible. L'alcoolisme, nous le savons aujourd'hui, a cette particularité déroutante. L'incapacité totale pour le malade de ne plus boire, aussi grand que ce soit le désir, et la nécessité d'y parvenir. Tu sais, le docteur Silkworth avait dit à Bill, tu vas mourir, Bill, tu vas mourir d'une imprégnation éthylique ou tu vas mourir d'une attaque de cœur. Il ne peut pas continuer de même. Puis pourtant, Bill a continué à boire pareil. T'sais, tant que le docteur Silkworth n'a pas expliqué la maladie comme il faut, et puis que Abby n'est pas venu sur son lit d'hôpital, puis a dit, Bill, au fond, tu changes la conception que tu as de Dieu, c'est là que ton problème. Alors, que devons-nous faire pour aider nos lecteurs à déterminer par eux-mêmes, dans leur propre intérêt, s'ils sont des nôtres? On se rappelle que ce livre-là a été écrit pour aller mêler à des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Hein? Essayer de renoncer à l'alcool pendant un certain temps est utile. Cependant, nous croyons avoir de meilleurs moyens d'aider ceux qui souffrent d'alcoolisme. Essayer d'arrêter, c'est bien bon, mais ce n'est pas la solution. Ils vont nous l'expliquer. Cependant, croyons avoir un meilleur moyen d'aider ceux qui souffrent d'alcoolisme et peut-être le milieu médical aussi. Dans ce temps-là, le milieu médical n'avait aucun recours. Encore aujourd'hui, ils n'ont aucun recours. Aujourd'hui, ils peuvent envoyer les gens aux alcooliques anonymes. Puis si le Bill il a vu ça dès le début, peut-être qu'on peut aider le monde médical, parce que Bill, il allait dans l'aide psychiatrique, aller parler au docteur, demander au docteur d'aller parler aux alcooliques là, puis ça faisait un changement. Fait que le docteur était étonné. Puis là, il nous dit, c'est pourquoi nous allons décrire quelques-uns des états d'esprit qui précèdent une rechute, car il est évident que c'est là le cœur du problème. Une autre phrase primordiale dans notre livre. Décrire quelques états d'esprit qui précèdent une rechute, parce que c'est là le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est dans ma tête. C'est que ma tête, elle me dit qu'à soir, ça ne fera pas ce que ça a fait les 100 autres fois. Fait qu'on va aller voir comment est-ce qu'est-ce qui te donne le droit de retourner voir après tout ce qu'on t'a appris. Ils vont nous raconter des histoires qu'ils ont vécues pour nous faire comprendre qu'on est arrangé de même, on n'a pas le choix. Que se passe-t-il dans la tête d'un alcoolique qui répète chaque fois l'expérience désespérée du premier verre? Des amis qui avaient tenté de ramener l'alcoolique à la raison après une cuite, qui avait failli coûter un divorce ou une faillite ou défaire son char, perdre sa job infiniment, sont toujours déconcertés de le voir reprendre le chemin du bord. Pourquoi le fait-il? À quoi pense-t-il? Tu sais, mes amis proches, mes parentés, me disaient, Hubert, comment ça, tu es saoulé hier soir, tu as défait ton char, tu dois retourner boire à soir, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il y a quoi de pas correct là? Hein? Notre premier exemple, c'est celui d'un homme que nous appellerons Jim. Okay? En plus d'avoir une femme, des enfants charmants, Jim a hérité d'un concessionnaire d'automobile florissant et son passé, un ancien combattant de la Deuxième Guerre, est impressionnant. C'est un gars idéal. Le gars, il a tout dans la vie. Là. C'est pas qu'il manque quelque chose, il a tout. Hein? On va voir ce qui s'est passé. Il réussit bien dans la vente, il joue de l'estime de tout. Autant qu'on peut s'en juger, c'est un homme intelligent, mais enclin à la nervosité. Il n'a pas bu avant 35 ans. C'est 35 ans sans boire. Au bout de quelques années, ses excès d'alcool l'ont rendu si violent qu'on a dû l'interner. À la sortie de la clinique, il a pris contact avec nous. Il a 35 ans sans boire, il n'a jamais bu. Du coup, il commence à boire, il ne peut pas s'arrêter, puis il saoule bien raide, puis il devient coléreux, puis là, il a ramassé à l'hôpital. On lui a fait part de ce que nous savions sur l'alcoolisme et de la solution que nous avons trouvée. Les alcooliques anonymes sont allés, deux personnes là à l'hôpital, aller y parler. Il a retrouvé sa famille, puis il a pris le travail comme vendeur dans l'entreprise qu'il avait perdu à cause de l'alcool. Il a perdu son dealership, puis il est rentré là, t'as voir le boss, puis il a dit, bien, le vendeur, c'est un bon vendeur, il est vendeur ici. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui commence à se passer dans la tête. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais il n'a rien fait pour enrichir sa vie spirituelle. Il n'a pas fait ses étapes, il n'a pas écouté ce que les autres ont dit, il a pensé qu'il était capable de lui-même. À son grand étonnement, il s'est enivré 6 fois en peu de temps. 6 fois de fil, dans 2 mois, il s'est saoulé. Okay? Après chacune de ses rechutes, nous avons prêté assistance. Il a appelé les alcooliques anonymes, il allait voir son lit d'hôpital, en essayant de comprendre avec lui ce qui s'était produit. Il a reconnu qu'il était réellement alcoolique, que son état était sérieux. Il savait qu'en continuant, Il s'exposait à un autre séjour en clinique. De plus, il perdait sa famille qu'il aimait profondément. Il avait ses enfants et sa femme. Il était en amour avec eux autres. C'est pas parce qu'ils n'aimaient pas. Hein? Mais il n'a pas voulu, il n'a pas amélioré sa vie spirituelle. Il n'a pas voulu faire ses étapes. Il n'a pas voulu se rendre utile dans l'alcoolique anonyme. Malgré tout, il a bu de nouveau. Ils ont dit, tu n'as pas de chance. Si tu ne viens pas avec nous autres, tu vas retourner. Nous lui avons demandé de nous raconter exactement comment les choses s'étaient passées. Ils ont été dit, bien, qu'est-ce qui s'est passé, Jim? On t'a tout expliqué ça, on t'a tout expliqué. Ça fait 6 fois qu'on te le dit, Bill, Jim, puis tu retournes tout le temps. Explique-nous qu'est-ce qui a pu se passer dans ta tête qui t'a donné le droit de retourner voir. Voici son récit. Je me suis présenté au travail le mardi matin. Déjà là, le mardi matin, les semaines commencent le lundi. On voit tout de suite qu'il y a quoi qui se prépare. Je me souviens que j'étais irrité n'être qu'un vendeur dans un commerce qui m'avait déjà appartenu. Il y aurait du ressentiment contre le gars qui a acheté le dealership. C'est pas de sa faute à lui, ça. J'ai eu une petite dispute avec le patron, mais rien de sérieux. Certains patrons, il a dû dire quand il est arrivé le mardi, mais hier, on avait moins de vendeurs, je sais que t'étais. Et qu'on va voir comment il a réagi. Hein? Ensuite, j'ai décidé d'aller rencontrer un de mes clients qui habitait à la campagne, qui était peut-être intéressé avec l'achat de voiture. Mais là, le boss, il a chicané, fait qu'il va me débarrasser de ses jambes. Il fait la craie que on va trouver un gars qui est intéressé dans un char, un bout, je vais aller lui montrer ça. Chemin faisant, comme j'avais faim, je suis arrêté dans un restaurant où il y avait un bar. Il n'a pas arrêté chez McDonald's. Il a arrêté une place qui avait de la boisson. Suite-là, on voit dans la tête que c'est qui se prépare. Il y a de quoi que ce n'est pas correct. J'avais nullement l'intention de boire. Ben oui, moi tout, j'arrêtais de boire, je me tenais à l'hôtel. Je ne voulais pas me saouler, mais je me tenais à l'hôtel. Je voulais simplement manger un sandwich. J'ai pensé que je pourrais peut-être rencontrer un autre client dans cet endroit qui m'était familier puisque je le fréquentais depuis plusieurs années. Il m'était souvent arrivé d'y manger au cours des mois où je ne buvais pas. Je me suis assis à une table, puis j'ai commandé un sandwich et un verre de lait. Je pensais toujours pas à l'alcool, puis j'ai commandé de nouveau un sandwich et un autre verre de lait. Soudain, j'ai pensé que je pourrais ajouter une once de whisky à mon lait. Ça ne pourrait pas me faire de tort puisque j'avais l'estomac plein. On voit l'obsession qui s'est commencée. J'ai rentré le mardi matin, je chante avec le boss, ouais, je ne resterai pas au travail, je vais aller faire la craque. Tout ça prépare, là. Ça prépare les ressentiments de l'ennemi numéro un. C'est ainsi que Jim a pu reprendre le chemin de la clinique et devenu de nouveau faire face à la menace d'être interné, de perdre son travail et sa famille, sans compter les souffrances morales et physiques que l'alcool lui causait toujours. Il était pourtant bien renseigné sur sa condition d'alcoolique. Cependant, toutes les raisons qu'il avait de ne pas boire ont été facilement écartées au profit de l'idée insensée qu'il pourrait prendre un whisky sans danger, pourvu qu'il mélange avec du lait. Si ça prend un alcoolique, vous pensez demain, une personne normale va le savoir, il n'y a aucune chance. Si tu prends de l'alcool, ça n'a pas d'importance que tu as mangé avant ou après, ça va faire effet. Il avait toutes les raisons de ne pas boire. Il a été facilement écarté, fait que cette idée-là, l'idée tenace, l'obsession tellement forte qu'il n'a plus pensé à sa famille, il n'a pas pensé à sa job, il n'a plus pensé à rien. Il a juste décidé de retourner boire. L'obsession. Quoi qu'on en dise, pour nous, c'est de la folie pure et simple. Après qu'on lit son histoire, puis il a été informé par AA 6 fois, puis il retourne boire. Comment appeler ça? Comment appeler autrement un tel manque de mesure, une telle incapacité de juger correctement? Peut-être croyez-vous qu'il s'agit d'un cas extrême. Pour nous, c'est courant, car on a tout fait ce genre de raisonnement un jour ou l'autre. Il nous est arrivé de réfléchir plus que Jim de conséquences, mais il y avait toujours ce curieux phénomène mental parallèlement à notre raisonnement sensé. Inévitablement, il nous donnait des excuses insensées et injustifiées pour prendre notre premier verre. Sa tête, elle a dit, mets ça dans une once d'alcool dans du lait. Premièrement, qui veut boire de l'alcool dans du lait? Sa tête, elle a dit, fais ça, puis ça ne marchera pas, tu vas être correct sur le repos parce que c'est dans le lait. Mais voyons donc. Notre bon sens ne parvenait pas à nous retenir et la déraison prenait le dessus. On a perdu la raison, mais c'est ça la déraison. Elle prend le dessus. Pourquoi? On répète la même chose, on espère des résultats différents. C'est ça que la deuxième partie de la première étape nous donne. On a perdu la raison. Le lendemain, en toute sincérité et plus sérieux du monde, nous demandons comment ça avait bien pu arriver. Comme moi, je me suis au bord, prenais du séminaire, tout d'un coup, quelqu'un m'offrait un verre, puis je le prenais, puis là, je me réveillais le lendemain matin. Mais comment ça, je me suis encore saoulé? En certaines circonstances, nous sommes délibérément enivrés, nous croyant justifiés par la nervosité, la colère, l'inquiétude, la dépression, la jalousie ou un sentiment de ce genre. Tu sais, moi, je l'ai dompté, moi, je veux montrer, moi. On va prendre un coup, moi, je vais me saouler. Ben, ça n'a pas rien montré à personne. Cependant, même dans ces cas-là, nous sommes forcés d'admettre notre démesure et la légèreté de l'excuse, qui, selon nous, justifiait notre chute, compte tenu de ce qui s'en suivait. Qu'est-ce qui justifiait? Il n'y a rien qui va justifier une rechute d'un alcoolique. La légèreté de l'excuse, en pensant qu'il est mis dans le lait, ça ne fera pas le faire, voyons donc. Aujourd'hui, nous voyons bien que lorsque nous commençons à boire, volontairement et non fortuitement, on n'a pas réfléchi sérieusement aux conséquences énormes qui en résultaient. On ne peut pas, parce que notre obsession est tellement forte, notre obsession nous dit, Hubert, ça va être correct, à ce soir, ça ne fera pas ce que ça a fait les 100 autres fois. Tu vas être correct, Hubert, vas-y. C'est ça que notre tête nous dit, c'est terrible. Notre réaction devant le premier verre est aussi absurde et incompréhensible que celle d'un individu qui, par exemple, aurait la manie de se faufiler entre les voitures pour traverser la rue. Cherchant des sensations fortes, il prend plaisir à éviter les automobiles. Ça fait-tu du sens? Un gars qui va sortir le milieu de la rue pour passer à travers des chars. Quand on lit ça, ça ne fait pas de sens, mais on va voir ce qu'ils nous disent. Hein? Malgré des mises en garde d'amis bienveillants, il s'amuse à ce jeu pendant quelques années. Tu sais, ses chums, sa famille, il dit, ben, Joe, tu ne devrais pas aller dans la rue demain, demain tu vas te faire frapper. Ah non, je suis correct, moi je m'enligne ça, puis ça passe. Jusque-là, il passe pour un drôle d'individu et a des idées bien étranges sur la façon de s'amuser. Un jour, la chance l'abandonne, il se fait blesser légèrement, plusieurs fois de suite. Tout individu normal devrait, dès ce moment-là, renoncer à sa nerveuse manie. Mais pourquoi? Il y a eu ce qu'on a lu tout à l'heure, là, une déformation d'esprit. La déformation d'esprit que lui pouvait pour être plus vite les chars. Déformation d'esprit déjà reconnue. Mais le voilà à nouveau renversé par un véhicule et cette fois, il a le crâne fracturé. Dans le courant de la semaine suivant sa sortie de l'hôpital, un tramway, il cause le bras. Il a dit qu'il était résolu à plus jamais. Il dit, je suis décidé, je ne retournerai plus dans la rue, je suis correct, j'ai compris, je ne le ferai plus, c'est beau. Il dit qu'il est résolu plus jamais à se lancer au milieu de la rue, mais au bout de quelques semaines, le voilà avec les deux jambes fracturées. Il retourne à boire, la même chose qu'il retourne à boire, retournez-vous dans la rue. Pendant des années, il persiste dans sa manie, mais toujours en promettant d'être plus prudent et de s'abstenir d'aller dans la rue. Là, je vais aller sur le trottoir, sur le bord, je n'irai plus dans la rue. Là. Finalement, il ne peut plus travailler. Sa femme obtient le divorce et devient la risée de tous, comme tout bon alcoolique. Hein? Il tente par tous les moyens de se débarrasser de sa faucheuse habitude. Arrêter de boire, il n'est plus capable. À sa demande, il est enfermé dans un institut psychiatrique avec l'espoir de se corriger. Il va passer un temps dans une maison de thérapie, mais je vais être correct. C'est pas ça. Le jour où il met fin à sa retraite, il se jette devant un camion d'incendie qui lui fracture le dos. Il faut être fou pour agir comme ça. Ben non. Mais si on regarde en arrière, en tout cas dans ma vie à moi, je regarde en arrière, c'était aussi fou que ça. Mais je ne le savais pas. J'avais faux qu'il y avait une déformation d'esprit déjà acquise. Peut-être trouvez-vous notre comparaison caricaturale. Est-elle vraiment? Parce que nous sommes passés par de dures épreuves, nous sommes forcés d'admettre qu'on pourrait raconter exactement la même histoire à notre sujet en substituant l'habitude de boire à celle de se lancer dans la circulation. C'est aussi stupide que ça. Ce serait tout à fait nous. Si intelligent que nous avions pu montrer en d'autres circonstances, moi, j'ai réussi en affaires, j'ai fait des bonnes affaires, puis je réussissais partout. Et quand ça arrivait de l'alcool, j'avais aucun contrôle. On était frappé d'insanité dès qu'il s'agissait d'alcool. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Certains d'entre vous doivent penser, oui, ce que vous dites est un peu vrai, mais ça ne s'explique pas entièrement à notre cas. Ben non, moi, je ne suis pas. Oui, mais moi, hein? Oui, mais moi, là, ben non, oui. Vous autres, c'est correct, mais oui. C'était à ma femme, c'était à mon travail, c'était à mon char, c'était à ma maison. Certains, tu boirais toi aussi, là, tu sais, oui, mais moi. Ce que vous nous dites est vrai, mais ça ne s'explique pas entièrement, pas tout à fait moins, tu sais, là. Nous admettons présenter quelques-uns des symptômes, mais nous n'avons pas atteint les mêmes extrêmes que vous. Puis il y a peu de chances qu'elle nous arrive, après tout ce que nous avons dit, de telles choses ne peuvent pas se reproduire. Tu sais, après, le docteur il m'a dit, « Hubert, si tu retournes dans le trafic, tu vas te faire frapper encore. »« Ah oh, non, j'irai plus, m'en mener sur le bord du trottoir, on va être correct. » Qu'est-ce qui arrive, hein? Je retourne dans le trafic. L'alcool ne nous a pas tout fait perdre dans la vie. Et nous n'avons certainement pas l'intention d'en arriver là. Merci pour l'information. Merci, bonjour, je retourne boire. J'ai des symptômes, mais ce n'est pas assez fort, je vais être correct. Peut-être vrai en ce qui concerne certains non-alcooliques qui, bien qu'en buvant beaucoup de façon déraisonnable aujourd'hui, sont capables de cesser de boire ou de se modérer parce que leur cerveau et leur corps n'ont pas été endommagés comme les nôtres. sais ce qu'on a lu tout à l'heure, ces gens-là n'ont pas une déformation d'esprit. C'est des gros buveurs, mais ils n'ont pas une déformation d'esprit particulière déjà acquise. Comme moi, je l'avais à 13 ans, j'avais une déformation d'esprit déjà là. Celui-là, j'étais malade, j'avais hâte de recommencer. Faut-tu que l'esprit soit embrouillé? Hein? À 13 ans, imagine-toi. Mais pour ainsi dire, tous les alcooliques actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de boire du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Jim est au courant. Ils l'ont mis au courant 6 fois, tu allais le voir, 6 fois, ils ont dit, tu peux pas retourner, Jim. Ah, moi, je ne suis pas tout à fait si pire que vous autres. Je vais être correct. Je vais être correct, là. Nous voulons insister sur ce point encore et encore pour que nos lecteurs alcooliques se le mettent bien dans la tête. Nous voulons insister sur ce point encore et encore pour que nos lecteurs alcooliques se le mettent bien dans la tête, car nous avons découvert cette vérité au prix de cruelles expériences. Des cruelles expériences, quand j'ai été regarder mon passé avec mon parrain, c'est le mal que j'ai fait à tout le monde autour de moi. Moi, j'arrivais là, je pensais que j'étais parfait, moi. J'ai jamais réalisé parce que ma tête, elle m'a compté démenter toute ma vie. Je n'ai pas réalisé tout le mal que j'avais fait. Puis il m'a dit, on a découvert cette vérité au prix de cruelles expériences. Des expériences qui font que j'ai trompé ma femme, j'ai couroyé. C'est pas le fun d'aller revoir ça. Passons à un autre cas. On va parler un autre pour voir ce qui se passe dans tout. Comment est-ce qu'on fait pour aller retourner voir après ce qu'on sait? Fred, un membre associé d'un bureau de comptable bien connu. Il gagne un bon revenu, possède une belle maison, il est heureux en ménage, ses enfants font des études prometteuses au collège. Sa personnalité agréable le fait lier d'amitié avec tout le monde. Fred, c'est un champion dans tout. Tout va bien dans sa vie. Les enfants à l'école secondaire, l'école particulière, puis sa femme, tout va bien, belle maison neuve. Tout il va bien. Il n'y a pas de raison de boire. Tout va bien. Okay? Fred est l'exemple parfait de l'homme d'affaires qui a réussi. Il donne l'impression d'être stable, bien équilibré. Pourtant, il est un alcoolique. Nous avons rencontré Fred pour la première fois il y a un an à l'hôpital où il se remettait d'une crise de convulsion alcoolique. C'était la première fois que ça y arrivait. Puis il avait terriblement honte. T'sais, il a terriblement honte d'avoir bu, puis il serait dans mon hôpital, un comptable, puis un gars d'élite, un gars de table. Ouais, il filait pas bien pantoute. Puis loin d'admettre qu'il était un alcoolique, parce que c'était un notable, il ne pouvait pas être un alcoolique. Il se disait qu'il était venu à l'hôpital pour se calmer les nerfs. T'sais, j'étais un peu trop nerveux, puis il y avait bien des affaires, fait que je suis venu à l'hôpital, ça va me calmer, puis je vais être correct. Le médecin, il a fait comprendre qu'il allait plus mal qu'il croyait. Le docteur, il a dit, non, c'est pas juste la nervosité, là. Il y a un problème, mon chum. Pendant quelques jours, cette nouvelle l'a déprimé. Il a décidé de renoncer complètement à l'alcool. Jamais il est venu à l'esprit qu'il ne pourrait pas y arriver, malgré sa force de caractère et son rang social. C'est un notable de la place. Il a dit, ben voyons donc, moi, je suis au courant, je le sais, cette heure, ça ne m'arrivera plus. Là, c'est une bad luck qui est arrivée, ça. Fred refusait de reconnaître qu'il était alcoolique et était encore moins disposé à accepter une solution spirituelle à son problème. C'est sûr, si tu n'as pas de problème, tu n'as pas moins de solution. Lui, il pensait qu'il n'avait pas de problème. Mais, parle-moi pas de ta solution. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour remettre avec la solution. Comment il fait une solution? Il n'a pas accepté une solution spirituelle parce qu'il n'avait pas de problème. Lui avons dit que nous savions que l'alcool. Nous lui avons dit ce que nous savions de l'alcoolisme. Ils ont expliqué. Jim, ça va plus mal que tu penses, là, Jim. Il y a une obsession là-dedans qui va te prendre. Intéressé, il a reconnu qu'il présentait quelques-uns des symptômes, mais il était loin d'admettre qu'il ne pourrait pas s'en sortir tout seul. Il croyait ferme qu'avec son expérience humiliante, jointe aux connaissances qu'il avait acquises, suffirait à l'empêcher de boire pour le reste de ses jours. La connaissance de soi réglait son problème. Là, il avait expliqué c'était quoi la maladie, puis il a dit Ah oui, là, bien là, je le sais. Non, le point de vue autre, je me l'avais expliqué, merci, bonjour. On va s'arranger avec ça, pas trop. Nous sommes restés sans nouvelles de Fred pendant quelque temps. Un jour, il nous a appris qu'il avait été de nouveau, on nous a appris qu'il avait été de nouveau hospitalisé. Cette fois, il était fortement ébranlé. Il n'a pas tardé à demander de nous voir. Ce qu'ils nous ont dit est alors des plus instructifs, car nous sommes ici en présence d'un homme convaincu qu'il doit cesser de boire. Il n'y a aucune excuse de s'adonner à l'alcool. Tout va bien dans sa vie, il n'y a pas de raison de boire. Qui démontre un jugement, une détermination remarquable. Il a réussi dans la vie, puis il est capable de passer à travers bien des choses, en tout ce qui a trait au reste, et qui s'était pourtant causé la figure, il s'est saoulé mal sale pareil. Écoutons-le raconter son histoire. C'est ça qu'ils nous font dans haut donner cette police, qu'ils demandent, ils vont écouter à Fred, qu'est-ce qui s'est passé? Fred, qu'est-ce qui t'a donné le droit d'aller boire? On te l'a expliqué 100%, tu l'as compris qu'il y avait là, puis t'as commencé à faire pour retourner boire encore. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette tête-là. T'sais? Déjà, il y avait une déformation d'esprit particulière qu'il ne savait pas lui-même. Nous sommes restés OK. Écoutons-le raconter son histoire. J'ai été bien impressionné parce que vous m'avez dit de l'alcoolisme et je croyais sincèrement qu'il était impossible que je recommence à boire. Oui, parce qu'il est un gars intelligent, il a compris la maladie, il a dit oui, OK, vous autres avez appuyé comme moi un peu, moi c'est dans le commencement, puis je vais être correct. Inquiétez-vous pas, moi être correct. Hein? Je croyais sincèrement qu'il est impossible que je recommence à boire. J'ai pris note de vos opinions quant à la folie subite qui s'empare de l'esprit avant le premier verre. La folie subite, c'est l'obsession. L'obsession qui va dire à Fred, tu peux boire la soirée, tu as fait une réussite, tu as bien réussi, tout le monde est content. Prends un petit drink, ça va te faire du bien, puis tout le monde va être content. C'est ça, la folie subite qui s'empare de l'esprit avant le premier verre. Hein? L'obsession. J'étais certain que ça ne m'arriverait pas après tout ce que j'avais compris. Vous m'avez expliqué ça, j'ai dit oui, je comprends, vous autres, vous avez un peu de trouble, là. Mais moi, je suis un gars intelligent, moi, là. Je suis un notable de la place, là, puis allez pas dire ça à tout le monde, je vais m'arranger, inquiétez-vous pas. Je me disais que mon cas était moins grave que le vôtre, que j'avais généralement réussi à régler mes autres problèmes personnels, puis je réussirais là où vous avez échoué. Vous savez, moi, Star, j'étais un peu plus fort que les autres. On m'en rend seul. Il semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance, qu'il suffisait d'avoir de la volonté et de me tenir sur mes gardes. Je vais juste surveiller, là, s'il arrive de la boisson, je vais faire attention, je vais être correct. J'ai repris le travail avec ses convictions et tout s'est passé. C'est bien passé pendant un certain temps. J'avais aucune difficulté à refuser les consommations, si bien que je commençais à me demander si j'avais pas exagéré la gravité de mon cas. Tu vois, l'obsession, elle s'en vient de suite là. De suite là, il a commencé à penser, peut-être que c'était pas si pire que ça. Là, j'ai mal à regarder, j'ai mal évalué ça. Un gars intelligent comme moi, on est capable de boire un petit peu, voyons donc. Un jour, je suis allé à Washington pour soumettre un dossier comptable à un bureau de gouvernement. J'avais déjà eu l'occasion de voyager du temps où j'avais cessé de boire. Il n'y avait donc là rien de nouveau pour moi. Je me sentais bien physiquement, puis j'avais l'esprit libre de tout tracas. Mon rendez-vous avait été un succès. J'étais content et je savais que mes partenaires le seraient aussi. Une journée parfaite pour les fins, sans un nuage à l'horizon. Une journée parfaite, tout a bien été. Merci mon Dieu, tout va bien, c'est bien. Et on va voir comment sa tête s'arrange avec ça. Je suis rendu à l'hôtel puis je me suis préparé tranquillement pour le dîner. Lorsque j'ai passé le seuil de la salle à manger, l'idée m'est venue que je pourrais bien agrémenter mon dîner de quelques cocktails. Voyons rien de plus. C'est ma tête a dit... Jim, tu as fait une belle job, tout le monde est content, le gouvernement est satisfait, tout le monde est. Même tes chums voient ça là, au bureau, ils vont dire hey, Jim, numéro un champion, Jim, tout va être bon. Puis là, il dit bien, je vais me récompenser un petit peu, on va prendre un petit drink, tu sais, ça va tout calmer ça, puis tout va se passer tranquillement. J'ai commandé un cocktail avec mon repas. Puis j'ai demandé un autre cocktail. Après dîner, j'ai décidé d'aller me promener. Et là, l'obsession était là, et puis. L'allergie commence à kicker in. Non? Après le dîner, j'ai dû me promener. À mon retour à l'hôtel, j'ai pensé qu'une consommation me ferait du bien avant d'aller me coucher. Et je me suis dirigé vers le bar et j'ai pris un verre. Parce que là, l'allergie faisait effet. Là. Il avait pris un verre, deux verres, l'allergie est là. Et que, sitôt que sa tête a dit, c'est correct, là. On prend juste un autre, on va me coucher. Je me souviens d'en avoir bu plusieurs ce soir-là et encore au lendemain matin. J'ai une vague souvenir de m'être trouvé à bord d'un avion en destination de New York et d'avoir retrouvé à l'aéroport un chauffeur de taxi sympathique au lieu de ma femme. Sa femme est appuyée. Peut-être passé une couple de jours là, sa femme est peu au courant, c'est pas ce qui est. Le chauffeur m'a accompagné dans mes allées et venues pendant plusieurs jours. Le chauffeur de taxi, il l'emmenait au bar, il allait où je voulais aller. Je me souviens très peu de ce que j'ai dit ou fait de cette... ou des endroits où je suis allé. J'ai perdu la carte bien raide. Puis de nouveau le séjour à l'hôpital ou des terribles souffrances morales et physiques, des souffrances et des humiliations. Retourner à l'hôpital en état désespéré. Dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai soigneusement passé en vue ma soirée à Washington. Non seulement je n'avais pas été sur mes gardes, mais je n'avais absolument pas résisté à ce premier verre. Ma tête, elle m'a dit c'était correct, un bon petit drink, ça va faire là, tout est, la semaine est faite, tout est beau, un bon petit drink. Cette fois, je n'avais pas eu. Je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. J'avais pris le premier verre avec la même désinvolture que s'il s'agissait d'un soda. Un soda, c'est comme un coke, un 7-up. Je me rappelais maintenant ce que mes amis alcooliques m'avaient dit. Ils m'avaient prévenu que si j'avais un tempérament d'alcoolique, un jour viendrait, je recommencerais à boire. Ils ont dit, Jim, tu n'es pas trop sûr de toi. Parce que si tu es un alcoolique, c'est un tempérament d'alcoolique pour une raison inconnue. Un jour, tu vas boire. Puis ils ont dit ça, puis ça y est resté dans l'idée, mais rien qu'après qu'il l'a fait. Il m'avait dit que même si j'étais sur la défensive un jour, sous un prétexte banal, mes défenses céderaient. Eh bien, c'est justement ce qui s'est produit. Et plus encore, parce que ce que j'avais appris sur l'alcoolisme n'était pas du tout revenu à l'esprit. J'ai vu à ce moment-là que j'avais un tempérament d'alcoolique. Parce que sa tête, il a compté demander, sa tête a dit, ça va juste te faire du bien, une belle semaine, on va tout finir la semaine, clôturer ça bien comme faut. Tout le monde va être content. Je me suis rendu compte que la volonté et la connaissance de soi ne pouvaient être d'aucun secours dans des moments étranges de vide mental. C'est une autre phrase que j'aime beaucoup. Des moments étranges de vide mental. C'est un vide mental. Quand je retourne moi, j'ai un vide mental. Il y a quelque chose que je ne peux pas me rappeler. Je prends des humiliations. Il y a un vide mental. Jusque-là, je n'avais pas pu comprendre que les gens qui se disaient dépassés par un problème. Dès lors, j'ai compris, c'était un coup dur. Il a finalement réalisé que oui, il était un alcoolique. On va voir ce qu'il a fait avec ça. J'ai reçu la visite de deux membres des Alcooliques anonymes en souriant, ce qui m'a un peu agacé. Ils m'ont demandé si je me reconnaissais alcoolique et si je m'avouais vraiment vaincu. J'ai dû déclarer forfait sur les deux points. Ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre que le comportement d'alcoolique que j'avais eu à Washington était le fait d'une condition désespérée. Ils ont fait comprendre par les exemples qu'eux autres avaient, les souffrances, les humiliations qu'eux autres aussi ont subies. Okay? C'est le fait d'une condition désespérée. Ils ont cité des douzaines de cas puisés à eux-mêmes expérience. Ils sont allés voir, ils ont dit, gars, mon Dieu, ce qu'on a fait, on a fait ci, on a fait ça. Puis la seule manière de se sauver, on est obligé de rester dans l'alcoolique anonyme, puis de venir voir les alcooliques en dépression comme toi pour qu'on puisse sauver notre vie. Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir tout seul. Quand j'ai entendu ces gars-là déferler tout le malaise, tout ce qu'ils ont fait dans la vie à cause des alcoolistes, il a commencé à comprendre que lui, tout ça, ça. Puis, ils m'ont exposé la solution spirituelle. Là, il était prêt à prendre la solution parce que là, il a compris qu'il y avait une maladie. Et là, ils ont proposé la solution spirituelle qui sont les étapes. Le programme d'action qui a réussi une centaine d'entre eux. Ils ont été allés dire, il va falloir que tu changes ta façon de penser, il va falloir que tu changes ta façon de voir ton être suprême. C'est là qu'est ton trou. Puis après qu'il a compris ça, on fait la solution spirituelle, c'est comprendre qu'il y a un être suprême, puis le programme d'action, l'étape 3 à 12. Même si je pratiquais pas ma religion, j'ai trouvé intellectuellement le principe facile à assimiler. En revanche, l'étape 1, 2, 3, il a trouvé ça, c'était pas trop pire. En revanche, le programme d'action de 4 à 11, tout à fait sensé qu'il était, m'a semblé très sévère. Très sévère, c'est dur, là. Ça se fait pas facilement, ça. Puis ça se fait pas tout seul. Il a dit, ben tabarnak, il y a de l'ouvrage à faire là-dedans, là. Il demandait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ben voyons donc, on voulait que je change la façon que je vois Dieu. Ben ça, non, ça ne peut pas. On ne peut pas changer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va changer. Il faut faire comprendre, tu vas changer la façon que tu vois Dieu. Tu vas changer ta relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ce n'était pas facile. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, j'ai dit, bon, OK, bon, vous me jurez que c'est ça, j'ai confiance avec vous autres. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais le faire, je suis prêt. Okay? Décision de m'engager. J'ai eu le sentiment curieux d'être soulagé de ma condition d'alcoolique, qui s'est avéré que c'est le cas. Le jour qu'il a pris la décision, il a dit, oui, je vais le faire. Oui, je comprends ce que vous me dites là, je vais le faire. Tout de suite, là, il a senti un soulagement déjà. Tout aussi important fut la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Pas juste, tu sais, j'entends ça, la deuxième partie, là, j'ai perdu la maîtrise de ma vie, puis là, on commence à parler de maîtrise de ma vie dans tous les domaines. Non, c'est sûr que j'ai perdu la maîtrise de ma vie, mais on parle d'alcoolisme à la première étape. Là, quand on est rendu là, à la deuxième étape, il nous dit, tu sais, comme solution spirituelle à tous mes problèmes, pas seulement le problème d'alcoolisme. Depuis, j'ai été amené à vivre un mode de vie infiniment plus satisfaisant et je l'espère plus utile que celui d'autrefois. Ça n'a pas été facile. Et prendre la décision de m'engager dans un programme d'action qui n'est pas facile. Il est simple. Il est simple parce qu'il est bien expliqué, mais ce n'est pas facile de le faire. Il y a de l'ouvrage à faire. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas mauvaise en soi, mais je n'échangerais certes pas les meilleurs instincts d'autrefois contre les pires de ma vie d'aujourd'hui. Je n'y retournais pas, même si je le pouvais. Pourquoi? Parce qu'il a mis Dieu dans sa vie. Il a changé la conception de Dieu qu'il avait. Puis aujourd'hui, la vie devient plus facile. C'est certain que la vie n'arrêtera pas d'arriver. Mais quand j'ai Dieu dans ma vie, puis arrive des problèmes, je dis à Dieu, aide-moi pour passer à travers de ça. Aide-moi à comprendre ce qui se passe. J'emmène du monde dans ma vie, des idées dans ma tête. Puis c'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit. Même, j'échangerais certainement les meilleurs instincts d'autrefois, parce que les instincts d'autrefois qui étaient heureux, c'était limité. Là, il n'y a pas de limite. Avec Dieu de ma compréhension, il n'y a plus de limite. Hein? Contre les pires journées de ma vie d'aujourd'hui, je ne retournerai pas, même si je le pouvais, même si je dirais, Hubert, il y a une pelule, aujourd'hui, tu peux prendre cette pelule-là, tu ne vas pas retourner voir. Moi, tout, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'ai connu un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Hein? Le témoignage de Fred se passe de commentaires. Il se passe de commentaires, puis il ne se passe pas de commentaires parce qu'il faut le lire, puis le relire jusqu'à temps qu'on le comprenne, parce que c'est un des points tournants de notre vie. Nous espérons que son exemple servira à des milliers d'autres comme lui. Il n'avait pas subi les premières atteintes du mal. Il n'avait subi que les premières atteintes du mal. Il n'était pas né dans un bas-fond encore. Il n'est pas obligé d'aller dans un bas-fond. C'est sûr que mon parrain disait, quand j'arrivais à l'Alcoolique Anonyme, j'avais de l'argent dans mes poches, mais j'avais ma job, j'avais tout. Puis mon parrain, il a dit, si tu es rentré dans une salle d'alcoolique, c'est un bas-fond assez profond, tu n'as pas besoin d'aller plus bas que ça. La plupart des alcooliques attendent d'être grandement meurtris avant de vraiment faire quelque chose pour aider leur problème. Ils ne veulent pas, ils pensent qu'ils ne sont pas assez alcooliques. De nombreux médecins et psychiatres partagent nos idées. L'un d'entre eux, qui est attaché à un hôpital mondialement reconnu, déclarait récemment à quelques-uns des autres, « À mon avis, vous avez raison de ce que vous dites que l'alcoolique moyen est atteint d'un mal généralement incurable. Quant à vous deux, dont j'ai entendu l'histoire de Jim et Fred, il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous n'en seriez jamais sortis sans un aide divine. Si vous aviez demandé à être vraiment à être traité dans mon hôpital, je ne vous aurais pas admis si j'en aurais été capable. Ça ne donne rien, les alcooliques, on ne peut pas être guéri, on ne peut pas rien faire avec eux autres. Ils détruisent tout. Les malades comme vous sont trop désespérants. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai un profond respect pour l'approche spirituelle dans des cas comme les vôtres. La plupart du temps, à vrai dire, il n'y a aucune autre solution. Pour un alcoolique chronique, il n'a pas d'autre solution que de changer la façon qu'on voit Dieu puis de faire les étapes de 4 à 11. Nous le rappelons encore une fois, il y a des moments où l'alcoolique se trouve mentalement démuni devant le premier verre. Sauf de rares exceptions, ni lui ni aucun être humain peut lui fournir le moyen de se défendre. Le secours doit venir d'une puissance supérieure. Il n'y a pas un être humain sur la terre, il n'y a pas un docteur, il n'y a pas un psychiatre, il n'y a pas un membre de ma famille, il n'y a pas mes enfants, il n'y a pas personne qui a été capable de m'arrêter de boire. Mais Dieu, de ma compréhension, à travers de l'étude du gros livre, a fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de boire. Aujourd'hui, je suis joyeux, heureux et libre, sans consommer. Sans consommer d'alcool, de drogue, de femmes, d'argent, de n'importe quoi, ça règle pas juste un de mes problèmes, ça règle tous mes problèmes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis, si vous voulez bien, on va fermer le meeting avec une prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Encore une fois, je veux vous remercier tout le monde d'être là. Moi, j'ai tellement besoin de vous autres. Lâchez-moi pas.